franceinter.fr.
Il dit Salvaire, en quoi vous êtes espagnol?
J'ai un nom espagnol, Arjona, Arjona. Et ce qui me ravit dans ce nom, c'est qu'il pourrait être à la fois d'origine juive et d'origine musulmane. Il pourrait être les deux. Les deux m'ont dit qu'il y avait des significations possibles de ce nom. Et cette espèce d'indécision me ravit.
Ça peut pas faire de mal.
Mal parler le français, c'est quand je suis enfant, c'est à la fois un handicap et c'est une faiblesse qui se renversera en force plus tard. Hein. C'est Cervantes qui disait qu'il fallait faire de cada flaqueza una fuerza, qu'il fallait faire de chaque faiblesse une force.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Dès l'enfance, je parle deux langues. À la maison, je parle l'espagnol, qui est la langue de mes parents, réfugiés politiques. À l'extérieur, je parle le français. Schématiquement, les choses vont peu à peu se construire ainsi. L'espagnol va devenir la langue du dedans, la langue de l'intime, des ripostes intérieures, la langue qui prend en charge tout ce que ne peut porter la langue du dehors, qui est la langue officielle. Tout ce qui, par elle, est laissé de côté, le mauvais goût, les grosses blagues, tout ce qui est moche, honteux, hilarant, tout ce qui n'a pas d'existence légale, tout ce qui est excessif et qui déborde. Parallèlement, le français s'impose à moi comme la langue de l'école, la belle langue des livres, la langue qui sait mentir, qui s'aime, qui se regarde, qui fait du style, la langue contrôlée, parfaite, parfaitement grammaticale. Et ces deux langues en moi vont entrer en guerre dès le début. Cette guerre s'aggrave lorsque je me prends de passion pour les grands classiques français. Je lis passionnément Racine et Pascal. Ils incarnent le français. Ils sont le français. Une langue claire, propre, débarrassée des scories baroques, expurgée des miasmes de la culture populaire, des ordures du langage, des injures, des blasphèmes, des trivialités. Ruteboeuf, Rabelais, Francion, au placard, fini de déconner. Avec les classiques, on ne rit plus à grands éclats, on esquisse un sourire, et la langue se tient droite, les coudes sur la table. En fait, tout se passe comme si cette guerre des langues avait lieu à l'intérieur de moi. Mais c'est une guerre que j'aime, que je désire, une guerre amoureuse dont je ne me lasse pas, sans doute parce qu'elle féconde cette autre langue qui est la langue de mes livres.
Cette langue singulière, ce français métissé d'espagnol, est celui d'une grande romancière que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour cette première émission de la rentrée qui inaugure la 7e saison de « Ça peut pas faire de mal ». Bonsoir Lydie Salvaire.
Bonsoir Guillaume Gallienne.
Merci de votre présence. L'an dernier, vous avez reçu le prix Goncourt pour votre très beau roman « Pas pleurer », publié aux éditions du Seuil. Vous y rendiez hommage à votre mère, réfugiée espagnole, exilée en France en 1939. Votre histoire familiale traverse l'ensemble de vos livres et vous inspire une écriture forte et originale, aux accents de révolte et d'insoumission. Ce soir, nous allons parcourir ensemble quelques-unes des plus belles pages de votre œuvre, toujours à la frontière entre deux réalités, le français et l'espagnol. Le passé et le présent, la normalité et la folie. Pour commencer, écoutons cette langue maternelle qui vous est si chère, Lydie Salvaire. Revenons à votre dernier roman, Pas pleurer, et découvrons ce dialogue cocasse où vous mettez en scène votre mère, adolescente, face à sa propre mère, votre grand-mère donc. La mère et la fille se rendent chez de riches propriétaires où la jeune fille se présente à un poste de domestique. La narratrice rapporte ici la scène racontée par sa mère qui n'a rien perdu de son franc-parler, mélange de français et d'espagnol. Le 18 juillet 1936, ma mère, accompagnée de ma grand-mère, se présente devant Los Señores Burgos, qui souhaite engager une nouvelle bonne, la précédente ayant été chassée au motif qu'elle sentait l'oignon. Au moment du verdict, Don Jaume Burgos Obregón tourne vers son épouse un visage satisfait et, après avoir observé ma mère de la tête aux pieds, déclare sur ce ton d'assurance que ma mère n'a pas oublié « Elle a l'air bien modeste ». Ma grand-mère le remercie comme s'il la félicitait. « Mais moi, me dit ma mère, cette phrase me rend folle. Je la réceptionne comme une offense, comme una patada al culo, ma chérie. Una patada al culo qui me fait faire un salto de 10 mètres en moi-même, qui ameute mon cerveau qui dormait depuis plus de 15 ans et qui me facilite de comprendre le sens des palabres que mon frère Joseph a rapportées du camp républicain de Lérida. » Alors quand on se retrouve dans la rue, je me mets à gritter, moi, à crier. Elle a l'air bien modeste, tu comprends ce que ça veut dire? Plus doucement, pour l'amour du ciel, implore ma mère qui est une femme très éclipsée. Ça veut dire, je bouillais ma chérie, je bouillais. Ça veut dire que je serai une bonne, bien bête et bien obéissante. Ça veut dire que j'accepterai tous les ordres de Don Sol sans protester, que je laverai son caca sans protester. Ça veut dire que je présenterai toutes les garanties d'une perfecte idiote, que je ne rechisterai jamais contre rien, que je ne causerai aucune molesté d'aucune sorte. Ça veut dire que Don Jaume me payera des, comment tu dis, des clopinettes, et qu'en plus il me faudra dire muchísimas gracias avec cet air modeste qui me va si bien. Seigneur Jésus, murmure ma mère, la mirade est alarmée. Plus bas, on va tuir. Et moi, je gritte encore plus fort. Je me fous qu'on mouille. Je veux pas être bonnie chez les Burgos. J'aime mieux faire la pute en ville. Pour l'amour du ciel, me supplique ma mère, ne dis pas ces bêtises. Ils nous ont même pas invités à nous assire, je lui dis révoltée. Ni même serrer la main. Je me rappelle brusquement que je souffre d'un panaris au pouce et que j'ai le doigt bandé. Panaris, si tu veux. Mais ne me rectifie pas chaque mot, sinon j'y arriverai jamais. Alors ma mère, pour me pacifier, me rappelle à voix susurrée les bénéfices considérables qui m'espèrent. Si je suis engagée, que je serai logée, que je serai nourrie et que je serai nettoyée, que j'aurai une vacation tous les dimanches pour aller danser la sardane sur la place de l'église, que je toucherai un petit salaire et une petite prime annuelle, avec quoi je pourrai me constituer un petit trousseau et même mettre de côté. À ces mots, je clame « Plutôt mourir !» Dios mio, soupire ma mère en jetant les mirades angoissées sur les deux files de maisons qui bordent la ruelle. Et moi, je me mets à courir à toute vélocité vers mon grenier. La guerre, heureusement, éclate le lendemain. Ce qui fait que je ne suis jamais allé faire la bonne, ni chez les Burgos, ni chez personne. La guerre, ma chérie, est tombée à pic nommé. Après ces souvenirs de jeunesse, voici le portrait émouvant que vous brossez de votre mère vieillissante, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Nous sommes toujours au début du roman, pas pleurer. Nous apprenons que la mère de la narratrice a aimé un jeune révolutionnaire français de passage dans la ville de Lérida, qui aurait pu être André Malraux. De ce bel inconnu naîtra la sœur aînée de la narratrice, mais l'identité du père reste un mystère. À vous l'honneur, Lydie Salvaire.
Ma mère, ce soir, regarde la télévision où l'image fortuite d'un homme interpellant le président de la République lui rappelle soudain l'enthousiasme de son frère Joseph à son retour de Lérida, sa jeune impatience et sa ferveur qui le rendait beau. Et tout remonte d'un coup. La petite phrase de Don Jaime Burgos Obregón, l'allégresse de juillet 36, la découverte euphorique de la ville et le visage de celui qu'elle a aimé à la folie et que ma sœur et moi appelons depuis l'enfance André Malraux. Ma mère s'appelle Montserrat Monclús Arjona, un nom que je suis heureuse de faire vivre et de détourner pour un temps du néant auquel il était promis. Dans le récit que j'entreprends, je ne veux introduire pour l'instant aucun personnage inventé. Puentes mi vida en que mi obras beben. Ma mère est née le 14 mars 1921. Ses proches l'appellent Montse ou Montsita. Elle a 90 ans au moment où elle évoque pour moi sa jeunesse catalane dans cette langue mixte et transpyrénéenne qui est devenue la sienne depuis que le hasard l'a jetée, il y a plus de 70 ans, dans un village du sud-ouest français. Ma mère a été belle. On me dit qu'elle avait autrefois cette prestance très particulière que conférait aux femmes espagnoles le port du cántaro sur la tête et qu'on ne voit aujourd'hui qu'aux danseuses de ballet. On me dit qu'elle avançait comme un bateau, très droite et souple comme une voile. On me dit qu'elle avait un corps de cinéma et portait dans ses yeux la bonté de son cœur. Aujourd'hui, elle est vieille, le visage ridé, le corps décrépit, la démarche égarée, vacillante, mais une jeunesse dans le regard que l'évocation de l'Espagne de 36 ravive d'une lumière que je ne lui avais jamais vue. Elle souffre de troubles de la mémoire et tous les événements qu'elle a vécus entre la guerre et aujourd'hui, elle en a oublié à tout jamais la trace. Mais elle garde absolument intact les souvenirs de cet été 36 où eut lieu l'inimaginable. Cet été 36 pendant lequel, dit-elle, elle découvrit la vie et qui fut, sans aucun doute, l'unique aventure de son existence. Est-ce à dire que ce que ma mère a tenu pour la réalité pendant les 75 années qui ont suivi n'a pas eu pour elle de réelle existence? Il m'arrive de le penser. André Malraux.
J'ai vu en Espagne le poète Alberti réciter ses poèmes aux arènes devant 200 000 paysans qui l'écoutaient en silence. J'ai vu un anarchiste qui voulait brûler une église où se trouve le tombeau de Cervantes.
Mais les relations mère-fille n'ont pas toujours été aussi tendres. Découvrons à présent la violence de leur quotidien telle qu'il apparaît dans l'un de vos romans les plus célèbres, La Compagnie des Spectres, publié au Seuil en 1997. Vous y abordez déjà les thèmes de la mémoire et de la pauvreté, mais à travers le souvenir d'une autre guerre, celle de 39-45. Hantée par le meurtre de son frère Jean par des miliciens en 1943, la mère est devenue folle et ne cesse d'injurier Pétain, l'appelant putain. Elle vit recluse dans un modeste appartement qu'elle partage avec sa fille. Un jour, l'intrusion d'un huissier va raviver les haines et aiguiser le sentiment d'injustice. Voici un extrait de ce réquisitoire brutal que la fille soutient devant l'homme de loi.
La grossièreté de ma mère bredouillait en guise d'excuse à l'huissier impavide qui examinait par le menu le contenu de l'horrible chiffonnier. La grossièreté de ma mère ne se déclenche, voyez-vous, que sous l'effet conjugué de l'insomnie et du chagrin. Ne vous en formalisez pas. Ma mère, malgré ses airs, est un être inoffensif, une agnelle, monsieur l'huissier. Du reste, elle ne crie que lorsqu'elle a peur, elle ne crie que pour tromper sa peur, c'est ce que j'ai fini par comprendre. En ce moment, par exemple, monsieur l'huissier, ma mère a peur de vous, je la connais. Elle doit se demander qui vous êtes. Êtes-vous un tueur, l'assassin de son Jean? La peur chez elle est faite de tout ce qu'elle imagine, et elle imagine sans cesse que le pire s'accomplit. En sorte que ma mère a peur de tout, monsieur. Ma mère a peur de tout, même de Dieu, que quelquefois dans son délire elle appelle putain. Peur de moi, sa fille. Peur d'elle-même. Peur de tout. Comme si toutes les peurs du monde s'étaient ramassées en elle et développées dans des proportions inouïes. Et ma mère, pensais-je, m'a infusé cette peur. J'ai peur des hommes, j'ai peur de la nuit où circulent les spectres, j'ai peur du maréchal putain que ma mère croit vivant, j'ai peur des bruits et du dehors. J'ai si peur que je vis barricadée dans cet appartement minable où personne ne pénètre jamais, en tête à tête avec cette mère qui se dit veuve de son frère mort depuis plus de 50 ans, une mère inconsolable et folle par-dessus le marché, et que je suis obligée de traiter en conséquence, c'est-à-dire mal, c'est-à-dire en la séquestrant, c'est-à-dire en l'assommant de drogue. Mais comment faire autrement ? Une mère qui me réveille chaque nuit en hurlant « Pourquoi ? Pourquoi ?» Pourquoi quoi, lui dis-je du fond de mon sommeil, et mes rêves me répondent, mais je ne les comprends pas. Une mère dont j'ai honte et que je cache à tout le monde, j'en bave. Une mère dont je tais la maladie, comme si la terre revenait magiquement à l'annuler, mais c'est tout le contraire. Une mère qui prétend qu'elle n'est pas en deuil d'une personne, mais de l'humanité tout entière, vous voyez le tableau ? Et qui passe ses jours à déterrer les souvenirs qui empestent la mort. « Tu pourrais pas mettre tes souvenirs au placard, lui dis-je. » « Non, ma mère ne peut pas, monsieur l'huissier, car sa mémoire de terreur la suit comme une chienne et lui lèche les mollets. » « Une mère que je dois surveiller, telle une enfant, fais ci, fais ça, dors, calme-toi. » « Une mère que je nourris, que je punis pour le principe et la vengeance, je m'expliquerai plus tard sur ce point, que je protège contre les miliciens qui la harcèlent la nuit et la réveillent à coups de bottes dans le ventre. » Car ma mère est ma fille, monsieur. Ma mère est ma fille, plus vieille que moi de 40 ans, et je dois l'élever. Je m'en passerai, croyez-moi. « J'ai peur de tout, pensais-je. J'ai peur de l'huissier qui est là devant moi, avec son cartable et sa tête à claque. Et je dois avouer que j'ai peur de ma mère, lorsqu'elle me fixe sans me reconnaître, comme il advient de plus en plus souvent. Lorsqu'elle me fixe avec ses yeux de folle, avec ses yeux qui m'accusent d'une faute que je n'ai pas commise, et que je me vois obligée de lui dire « C'est moi, Louisiane, ta fille, maman, n'aie pas peur, c'est moi, ne crains rien. » Car je redoute parfois qu'elle me prenne, dans l'embrasement de son délire, pour Corinne le Cher ou une autre salope du même acabit et ne me fasse mal. Mais ma mère, à cet instant précis, ne me prenait ni pour Corinne Lucher, ni pour Eva Braun. Elle prolongeait devant moi ses litanies, afin de m'instruire, c'est ce qu'elle me rabâchait tout le temps. Je t'enseigne l'histoire, car bientôt je mourrai. Les bouches des derniers survivants se rempliront de terre. Et qui sera là pour te dire les paralipomènes du siècle qui s'achève? Les paraquoi? Toutes ces horreurs, ma chérie, qui crient de la terre jusqu'à nous. Mais moi, je ne demandais qu'une chose, c'est qu'elle ne me parle jamais plus de Darnan, ni de Putain, ni d'aucune autre de ces ordures. Les histoires du bon vieux temps qui finissent systématiquement par 6 millions de meurtres, merci beaucoup, j'en avais soupé. Moi, c'est simple, je n'aime que les histoires d'amour contrariées.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Luces en el mar lanzan señales que no entiendo. Son como guiños en la oscuridad cuando el corazón siente abierto para recibir los regalos que me trae el viento. En la noche calmada, cerca de un puerto. En la noche calmada, cerca de un puerto. Luces en el cielo parpadean a tiempo. El viejo faro cuidará los sueños, la promesa que me hace bien, la herida que no curé. En la noche calmada, cerca de un puerto. En la noche calmada, cerca de un puerto.
Médecin psychiatre de formation, Lydie Salvert, vous portez dans vos livres une attention particulière aux êtres blessés. Parmi ces êtres meurtris par la vie, voici le portrait d'un homme qui sombre dans la dépression. Il s'agit du personnage de votre tout premier roman, La Déclaration, publié aux éditions Julliard en 1990. La Déclaration, c'est celle que fait un homme à sa femme qui vient de le quitter. Déclaration d'amour, mais aussi déclaration de guerre. Voici un extrait de ce monologue vibrant où l'homme délaissé s'isole peu à peu de son entourage. Dans l'enfer de la solitude, il s'adonne à une nouvelle obsession. Depuis une semaine, je ne sors plus de ma chambre. Les promenades dans mon quartier auxquelles je m'obligeais jusqu'ici pour leurs bienfaits sur la circulation sanguine me deviennent chaque jour plus pénibles car je crains de rencontrer des personnes de ma connaissance. Et l'idée d'avoir à prononcer quelques mots de réponse ajustés, sportifs, synchrones, me jette dans une peur incalculable. Je longe les allées désertes et m'engouffre dans une rue perpendiculaire dès que je distingue de loin un visage connu. Je finis par rentrer chez moi, où je crois voir un havre. À peine suis-je entre mes quatre murs que je m'installe face à mon Minitel. Car me voici atteint d'un vice étrange. Mes jours et mes nuits, je les passe devant mon écran. Le temps ne m'importe plus. Je ne suis plus l'esclave de ces rythmes. Je m'appelle Fabrice, le comte de Monte Cristo, Sinbad le marin, Biladon, Consuelo ou Mathilde. Le sexe m'indiffère. Je ne suis plus l'esclave d'une identité. Je ne respecte plus la grammaire. Lorsqu'un mot est trop long, je l'abrège. Mes correspondants ne sont pas gens à patienter. Certains de mes messages ne dépassent pas deux mots. Beau mec, grosse queue, grosse bite si je suis d'humeur joueuse. Je suis débarrassé de toute tentation de me définir, de m'approfondir, de savoir qui je suis. J'écris un code qui ne tolère aucune version, aucun épanchement. J'écris sans fioritures, sans poésie, sans aucun des silences où s'engouffre la peur. Je suis le contraire d'un écrivain. Nouvelle tentative sur mon Minitel. J'élimine les prénoms trop expressifs, les Sandra, Jennifer, Barbara ou Audrey. Un pseudonyme me retient, Katleya. Je tape, je suis à la recherche. Un dialogue commence, gai et vif. Je me prends au jeu, je fais un nouvel essai. Je tombe sur Laurélie, je m'appelle Parsifal. Je tape sur les touches de plus en plus vite. L'échange se prolonge jusqu'à une heure tardive. À la fin, je bande. J'organise depuis ma chambre un univers dont je suis le seul maître et que nul ne vient perturber. Les autres apparaissent ou disparaissent à ma guise. Il me suffit d'un geste du doigt pour les convoquer à ma table. Parfois, l'un d'eux, que j'ai accroché par un mot, s'évanouit sans laisser de traces. Je ressens le même dépit que de perdre à un jeu de cartes. Mal joué, me dis-je. Et je me branche aussitôt sur un autre. Au regard de ce pouvoir, parler me paraît une chose inutile et bizarre. Une ancienne barbarie, soumise à toutes les faiblesses, à toutes les fluctuations. Une chose de pauvre. Le téléphone ne sonne plus depuis 10 jours et je m'en félicite. Le dernier appel provenait de maman. Maman est la seule personne à qui je consens encore de parler au téléphone. Mais la machine à laquelle je voue mon temps, et je dirais même ma vie si je ne craignais l'emphase, cette machine a contaminé ma langue et je dois faire de pénibles efforts pour construire une phrase logique. J'envisage de ne plus lui répondre. Je ne prends plus le risque insensé de proposer un rendez-vous. Plus j'avance, plus je dédaigne la matière corporelle, ses convulsions, ses sécrétions, ses appétits, ses fureurs. J'ai supprimé de ma vie ces gestes superflus qui mènent au chaos sans qu'on s'en aperçoive. Il y a 10 jours que je n'ai pas parlé, 10 jours que je n'ai pas marché dans la rue. Je reste impeccablement immobile pendant des heures devant mon appareil. J'ai l'impression que s'est creusé en moi un trou sans fond où l'angoisse s'engouffre à peine je bouge. Mon souhait est de me confondre avec l'immobilité même. Chaque jour, je fais des progrès. La substance de mes nerfs a changé. Ils sont souples, conductibles, obéissants et totalement indolores. Je ne souffre de ce fait d'aucune douleur physique. Je ne ressens plus mes tripes ni aucun de mes organes. C'est comme si j'étais vide. Je ne vais plus au cabinet que par pur conformisme. Je ne ressens rien que de la fatigue. Une fatigue comme le désespoir, morne, insistante, chronique. une fatigue de l'être. Je n'éprouve d'autre désir que celui de tracer des signes vides sur un écran. Ma conscience ne résonne plus d'aucun écho. La fenêtre de ma chambre a reculé jusqu'à devenir une petite fente. Je ne souffre plus. Je suis abstrait. Tout à l'heure, je me suis allongé sur les draps blancs de mon lit afin de reposer mon dos. Et j'ai eu alors la vision de moi-même, réduit à des signes sombres dont certains m'étaient connus. L'accent de mes sourcils, le trait de ma bouche, le triangle de mes pommettes et d'autres inconnus. J'ai fermé les yeux pour m'oublier. Découvrons à présent le portrait d'un célèbre musicien qui vous a fasciné, Lydie Salvert, et vous a inspiré l'un de vos récents livres, Hymne, publié en 2011. Voici un extrait de ce texte qui rend hommage à l'une des figures mythiques du rock américain des années 60. À vous l'honneur de nous faire découvrir cette personnalité hors du commun, icône d'une génération.
Il fut, le 18 août 1969, l'audace même. Il fit ceci. Il s'empara de l'hymne et il le retourna. Il lut ce front. Il prit ce risque. L'hymne entonné en prélude aux allocutions du président Nixon, l'hymne qui résonnait lors des célébrations des tueries héroïques, l'hymne intouchable, l'hymne immuable, l'hymne de la superpuissance blanche classée numéro 1 au hit parade des pays producteurs de bombes, l'hymne sacré, symbolique, l'hymne régimentaire qui avait envoyé son ami Larry Lee se faire trouer la peau dans les jungles du Vietnam, l'hymne qui accueillait en fanfare les GIs morts au combat, l'hymne engoncé dans son uniforme, l'hymne pétrifié de la nation. Il l'empoigna, le secoua et aussitôt en fit jaillir une liberté qui souleva l'esprit. C'est de The Star Spangled Banner dont je parle. C'est de ce morceau si légitimement fameux que Jimi Hendrix joua à Woodstock le 18 août 1969 à 9h, devant une foule qui n'avait pas dormi depuis 3 jours et que j'écoute des années après, dans ma chambre, avec le sentiment très vif que le temps presse et qu'il me faut désormais aller vers ce qui, entre tout, m'émeut et m'affermit, vers tout ce qui m'augmente, vers les œuvres admirées que je veux faire aimer et desquelles je suis, nous sommes, indéfiniment redevables. J'écoute l'hymne, une fois encore. Le cri que lança Hendrix en le jouant à Woodstock le 18 août 1969 à 9h du matin, ce cri me bouleverse, tout comme au premier jour. J'ai le sentiment que je n'entends plus aujourd'hui de cri qui est, comme le sien se souffle à arracher les arbres. Un cri plus fort que tous les mots. Un cri d'effroi devant la vie menacée par la folie guerrière et d'espoir increvable devant la beauté. Un cri qui déchira l'espace. Un cri aux accents inconnus. Un cri qui était comme une incantation aboyée dans un monde infernal, comme un sanglot terrible. Un cri lancé au ciel. Il résonne encore aujourd'hui et son pouvoir d'interpellation reste intact. Car où entend-on aujourd'hui un hurlement de cette portée qui se lève contre l'horreur et redonne vie à nos vies? La violence se serait-elle miraculeusement dissipée? Ou notre abdication serait-elle si totale que nous n'aurions plus à nous insurger? Le cri que Hendrix fit entendre à Woodstock le 18 août 1969 à 9h du matin, ce cri continue aujourd'hui de crier et de défier le temps. C'est cela surtout que je voudrais dire à propos de The Star Spangled Banner, qu'il fut un cri qui concentra tous les refus d'une jeunesse que l'avidité, la brutalité et le prosaïsme de la société d'alors révulsaient jusqu'à la nausée, un cri dont l'impact, 40 années après, vient encore fissurer la gangue de nos cœurs. Hendrix mourut en même temps que mourait une époque qui avait cru, déraisonnablement, que le pouvoir des fleurs désarmerait les mains les plus militaires. Hendrix, à Woodstock, incarna d'une certaine façon la fin de ce monde et son deuil. Il avait compris que la paix et le bonheur qu'il souhaita à la foule ce matin du 18 août 1969 à Woodstock, que cet idéal impossible auquel une génération avait éperdument aspiré, était condamné à mourir. Et si tout nom porte, paraît-il, un sens, on peut avancer que le nom de Hendrix, qui sonne comme un matrix, fut à la fois l'emblème de cet idéal naufragé et l'annonciateur d'un monde qui n'en était alors qu'à son commencement, un monde futuriste, beaucoup plus fauve et inhumain que le précédent et devant lequel mieux valait s'étourdir. Hendrix annonça ce monde à venir qui nous introduisait au temps des artifices, du cyberart, de la cyberinfo et du cyberamour sur des écrans qui ne s'éteindraient plus et qui bouleverseraient la production et l'usage de la musique, tout comme il bouleverserait la production et l'usage du monde. Un monde où, parallèlement, les mots consumérisme et mondialisation deviendraient banals, où le cynisme et l'emprise du fric sur toute chose étendraient leur pouvoir, et où la crapulerie financière ne cesserait de croître, la crapulerie financière dont Hendrix fut, je le dis et l'affirme, le sacrifié. Il mourut du déchirement d'une époque prise entre la fin de l'euphorie des années 60 et le surgissement d'un monde autrement plus rapace et brutal, d'un monde happé par l'obsession du calcul économique et la logique marchande, sauvagement marchande, qui commençait à s'affirmer et qui est encore le nôtre aujourd'hui.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
There must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Drink my wine, plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. What a joke. But you and I, we've been through that. And this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey!
Évoquons une autre facette de votre écriture, Lydie Salvaire, votre talent de pamphlétaire. Il y a quelques années, vous revendiquiez en guise de manifeste littéraire le courage, le rire et les pommes de terre. C'est le programme électoral de Verlaine et c'est un peu le mien. Cette ironie, vous lui donniez libre cours dans un livre au ton cocasse, La conférence de Sainte-Gabelle, publié en 1999 aux éditions Verticales. Un homme, veuf depuis 2 mois et apparemment soulagé de la perte de son épouse, tient salon dans un café de sa petite ville. Il y défend l'art de la conversation, selon lui gravement menacé par notre monde virtuel. Le voici en plein lyrisme, développant un abécédaire de la conversation, lorsque le souvenir de sa femme tyrannique vient se mêler à ses plus beaux aphorismes. Pour l'heure, attaquons-nous, si j'ose dire, à l'ultime condition que nous devrions écrire en lettres d'or, car elle est le sine qua non de la conversation. J'ai nommé la liberté, veuillez noter, je vous prie, la conversation est un liseron. La conversation est une rumba. La conversation est une insomniaque, elle empêche le verbe de dormir. La conversation est une herbe qui pousse entre les pavés pour les disjoindre. La conversation est tour à tour acide, adorable, africaine. Elle ajoute à l'ombre, bizarre, buissonnière, un bien sans mal ne lui plaît pas, caressante comme une femme, puis chuchotée, combative, comique, contradictoire, crâne. Elle aime les coups de vent, diablesse, digestive. Elle dévale, défait les alignements, divagante, effrontée, excentrique, émeutière. Elle apparaît n'importe où, met les voiles en vitesse, comment la rattraper? Érotique, égarée, explosive, elle s'emporte et rit de son emportement, fiévreuse, fluviale, féminine, fringante. Elle fouille sans cesse dans le magasin des idées, n'a pas un registre, mais sent, gourmande, gouailleuse, inutile comme le rêve, intempestive, joueuse, lascive, lente. Elle se moque des moqueries, mordante, mystérieuse, nocturne, ondulée, ouverte, piquante. Elle procède par sauts et gambades, rouée, railleuse, rien ne lui est acquis, salée parfois comme la mer, sulfureuse. Elle ne se soucie ni du bien dire ni du mal, tendre, téméraire et triste comme la vérité, vibrante, valétienne et zingue. Voilà la conversation. La conversation, mesdames, messieurs, la conversation, la vraie, celle que nous aimons et que nous défendrons corps et âme, est comme la pensée, fragile comme elle, mobile comme elle, infinie dans ses masques et ses oripeaux, libre enfin. Jolie déclaration, n'est-ce pas ? Mais comment se traduit-elle dans la réalité ? Pour parler avec les mots de Manucienne, qui en dépit des limites de son entendement manifestait une puissance de contestation tout à fait hors du commun, « Qu'est-ce que tu racontes ? » s'écriait-elle dès que je lui soumettais mes philosophiques spéculations. « Qu'est-ce que tu baragouines ?» Ceci, ma Lulu, que la libre conversation prend des aises avec les opinions du jour, autant qu'avec les grands dogmes, car la conversation n'est pas moutonnière. Elle aime faire bande à part, prendre les voies traversières, marcher à l'air libre et fureter là où il ne faut point. Néanmoins, elle sait qu'il ne peut exister de liberté pure. Elle sait que les préjugés sont notre lot et notre malheur et que nul n'échappe aux effets de ce que l'on appelle la communication. Mais au lieu de se soumettre à ses entraves ou de les rejeter en bloc, elle en use, elle en joue. Patiemment, elle les transfigure. Elle en fait de l'art. Dès que j'aborde le chapitre théorique, je m'emballe. C'est que j'en fus longtemps sevré par ma bibiche, qui en avait peur. La pauvrette, c'était touchant. Sa peur était si grande qu'elle lui inspirait des mots durs. Ainsi sont tous les apeurés de la terre. « Mais tu vas la boucler, oui !» me criait-elle en me donnant une bourrade dans le dos dès que je tentais de la conduire dans les méandres de l'abstraction pure. « Tu vas la fermer !» me hurlait-elle jusqu'à ce que je renonçasse à mes transcendantales cogitations. Puis je cessais de lui parler tout court. C'était plus simple. Nous ne disions plus que l'essentiel, des expressions telles que « je suis vidé »,« j'ai la dalle » ou des interjections telles que « je t'en foutrais, sale bête ». Bref, nous touchions au subliminal, comme dans les romans modernes. Vous l'avez compris, mesdames, messieurs, l'homme de conversation, c'est l'artiste, l'éveillé, le solitaire. Celui qui n'en appelle à aucun maître, ne se prosterne devant rien et ne tire l'autorité de son discours que de lui-même. Il est libre, fraternel, miséricordieux, pas mesquin pour 2 sous quoi encore, de l'esprit à revendre, épris de beauté, très sympathique, et tout à l'avenant. L'homme de la conversation, en un mot, c'est moi. Je ne puis vous le cacher plus longtemps. En conclusion, revenons à un genre littéraire dans lequel vous excellez, Lydie Salvert, la biographie comme exercice d'admiration. Oh, mon Dieu, ce que je suis d'accord avec vous. Proche ou lointaine, des personnalités complexes peuplent votre œuvre. Votre mère, bien sûr, nous l'avons vu, ou des célébrités comme Jimi Hendrix. Ouvrons à présent votre avant-dernier livre, intitulé « Sept femmes », publié chez Perrin en 2013. Vous y évoquez sept femmes de lettres au destin singulier. Sept folles pour qui vivre ne suffit pas. Parmi elles, Emily Brontë, Marina Tsvetaeva, Virginia Woolf, et celle qui vous touche le plus, la poétesse autrichienne Ingeborg Bachmann.
An die Sonne, schöner als der beachtliche Mond und sein geadeltes Licht.
Où qu'elle soit, Ingeborg Bachmann est toujours et tout de suite le centre. C'est une chose qui ne s'explique pas. Elle a du style. Même son silence a du style. C'est une chose qui ne s'explique pas plus. Son visage est très beau, avec quelque chose de vulnérable qui attire. Elle fume nerveusement cigarette sur cigarette. On dirait qu'elle marche sur des lames de couteau. Elle est si réservée, si timide, que lors de sa première lecture devant le groupe 47, sa voix est inaudible. Un des auteurs présents se propose alors de relire son poème à haute et distincte voix. Elle s'évanouit d'émotion. Thomas Bernard, qui me conduit vers elle, car un auteur aimé vous amène vers ses livres aimés, lesquels vous amènent vers d'autres livres aimés, et ainsi infiniment jusqu'à la fin des jours, formant ce livre immense, inépuisable, toujours inachevé, qui est en nous comme un cœur vivant, immatériel mais vivant. Thomas Bernard, disais-je, dit d'elle qu'elle est un événement. Il l'admire.
Schöner als die Sterne, die berühmten Orden der Nacht. Viel schöner als der feurige Auftritt eines Kometen und zu weit schönerem berufen als jedes andere Gestirn.
Comme lui, elle déteste l'Autriche. Elle déteste son pays où l'horreur nazie a fait régner une nuit profonde, une nuit qui ne veut pas finir. Elle le qualifie de pays putréfié. Elle le fuit constamment. Elle habite tour à tour à Paris, Londres, Berlin, Francfort, Zurich, Naples et Rome où elle meurt en 1973. Elle déménage 14 fois. Dans son univers romanesque, on retrouve toujours cette impossibilité d'un ancrage. Tout y est toujours incertain, délocalisé. En 1964, elle publie l'un de ses poèmes les plus célèbres, « La Bohème est au bord de la mer », dans lequel elle invente le seul pays qu'elle considère comme sien, une bohème idéale, bordée par la mer, patrie des apatrides et refuge de tous ceux qui sont de nulle part. Elle dit qu'elle déteste la littérature lorsque la littérature n'est qu'une esthétique, un bibelot, une parure de cheminée. Elle veut que la littérature exerce une influence sur la réalité. Elle y croit, elle veut y croire. Il y a en elle quelque chose de naïf. Toutes les choses que l'on rapporte d'elle m'émeuvent infiniment et me la font aimer. En janvier 1948, elle rencontre à Vienne le poète Paul Celan. Leur lien, qui restera jusqu'à la fin nécessaire à leur vie, à leur œuvre, viendra buter sur mille impasses et mille incompréhensions. Mais ni leur fardeau de silence, ni les secrets ensevelis dans le fond de leur cœur, ni les questions imprononcées dont ils traquent les réponses sur la bouche de l'autre, ni le poids terrible sur leur vie des mécomptes de l'histoire n'auront raison de leur obscur amour. L'un et l'autre ont en partage une même question. Dans quelle langue écrire depuis que leur langue natale, l'allemand, a été corrompue par la catastrophe nazie, depuis qu'elle est devenue une langue obscène, déshonorée, imprononçable, une langue de mort? Dans quelle langue écrire lorsqu'on cherche non pas à s'exonérer d'une histoire abjecte, mais à l'endosser avec son poids d'horreur, avec son poids de cendre, pour en balbutier ce qui n'a pas encore trouvé de mots? Dans quelle langue écrire quand parler est devenu plus que jamais indispensable? Pas d'autre issue que de continuer à dire. Cela est possible.
Et si, pour certains, aucune consolation n'est à attendre après la rupture irréparable qu'a constitué la liquidation d'un peuple, il reste néanmoins qu'une parole est possible. Une parole est possible, une parole née du dedans même des cendres d'Auschwitz et des mille ténèbres de ses discours meurtriers. Une parole pour que les morts ne soient plus seuls, une parole pour se souvenir de la nuit et dire ce que l'Autriche honteusement bâillonne. Mon triste père, pourquoi vous êtes-vous tu jadis ? Demande Ingeborg Bachmann dans le poème « Curriculum vitae ». Car se taire, pour Bachmann, pour Celan et les écrivains du groupe 47, se taire n'est rien moins que donner la victoire au bourreau.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission, réalisée par Xavier Pestudier avec Bernard Laniel à la technique, a été préparée par Estelle Gap, Laurel Maki et Irène Menahem. Merci infiniment, Lydie Salvaire.
Merci à vous.
Bonne soirée et à la semaine prochaine.